comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, suite. Peu à peu, cependant, je repris connaissance. Puis, j'éprouvais une si grande fatigue qu'elle m'effraya. Il me fallut longtemps pour me souvenir de ce qui s'était passé. Mes pieds me faisaient terriblement souffrir et je n'arrivais pas à les remuer. Ils étaient comme engourdis. Ma nuque me semblait glacée. Toute ma colonne vertébrale et mes oreilles, de même que mes pieds, étaient à la fois engourdis et douloureux. Pourtant, j'avais au cœur une impression de chaleur véritablement délicieuse comparée à toutes ces sensations. C'était un cauchemar physique, si je puis me servir d'une telle expression, car je ne sais quel poids très lourd sur ma poitrine me rendait la respiration difficile. Je restais assez longtemps, je pense, dans cet état de demi-léthargie, et je n'en sortis que pour sombrer dans le sommeil, à moins que ce ne fût une sorte d'évanouissement. Puis je fus pris d'un haut le cœur, comme lorsqu'on commence à éprouver le mal de mer. En moi montait le besoin incoercible d'être délivré de quelque chose, je ne savais de quoi. Tout autour de moi régnait un silence profond, comme si le monde entier dormait ou venait de mourir, silence que rompait seulement le halètement d'un animal qui devait se trouver tout près de moi. Je sentis quelque chose de chaud qui m'écorchait la gorge, et c'est alors que m'apparut l'horrible vérité. Un gros animal était couché sur moi, la gueule collée à ma gorge. Je n'osais pas remuer, sachant qu'une prudente immobilité pourrait seule me sauver. Mais la bête, de son côté, comprit sans doute qu'il s'était fait un changement en moi, car elle redressa la tête. À travers mes cils, je vis au-dessus de moi des grands yeux flamboyants d'un loup gigantesque. Ses dents blanches, longues et pointues, brillaient dans sa gueule rouge béante, et son souffle chaud et âcre m'arrivait jusque sous les narines. Une fois de plus, il se passa un bon moment dont je n'ai gardé aucun souvenir. Enfin, je perçus un grognement sourd et une sorte de jappement, ceci à plusieurs reprises. Puis, très loin, me sembla-t-il, j'entendis comme plusieurs voix crier ensemble « Hola, hola !» Avec précaution, je levai la tête pour regarder dans la direction d'où venaient ces cris, mais le cimetière me bouchait la vue. Le loup continuait à japper d'étranges façons et une lueur rouge se mit à contourner le bois de cyprès. Il me semblait qu'elle suivait les voix. Celle-ci se rapprochait cependant que le loup hurlait maintenant sans arrêt et de plus en plus fort. Plus que jamais, je craignais de faire le moindre mouvement, de laisser échapper ne fût-ce qu'un soupir. Et la lueur rouge se rapprochait, elle aussi, par-dessus le linceul blanc qui s'étendait tout autour de moi dans la nuit. Tout à coup surgit de derrière les arbres, au trot, un groupe de cavaliers portant des torches. Le loup, se levant aussitôt, quitta ma poitrine et s'enfonça dans le cimetière. Je vis un des cavaliers, c'était des soldats, je reconnaissais la tenue militaire, épauler sa carabine et viser. Un de ses compagnons le toucha du coude et la balle siffla au-dessus de ma tête. Assurément, il avait pris mon corps pour celui du loup. Un autre soldat vit l'animal qui s'éloignait et un deuxième coup de feu fut tiré. Puis, tous les cavaliers partirent au galop, certains vers moi, les autres poursuivant le loup qui disparut sous les cyprès lourds de neige. Une fois qu'ils furent près de moi, je voulus enfin remuer bras et jambes, mais cela me fut impossible. J'étais sans force, encore que je ne perdisse rien de ce qui se passait, de ce qui se disait autour de moi. Deux ou trois soldats mirent pied à terre et s'agenouillèrent pour m'examiner de près. L'un d'eux me souleva la tête, puis mit sa main sur mon cœur. « Tout va bien, mes amis » cria-t-il. « Son cœur bat encore !» On me versa un peu de brandy dans la gorge. Cela me fit revenir complètement à moi et j'ouvris enfin les yeux tout grands. Les lumières et les ombres jouaient dans les arbres. J'entendais les hommes s'interpeller. Leurs cris exprimaient l'épouvante et bientôt ceux qui étaient partis à la recherche du loup vinrent les rejoindre, excités tels des possédés. Ceux qui m'entouraient les questionnèrent avec angoisse. « Eh bien, l'avez-vous trouvé ?» « Non, non, » répondirent-ils précipitamment. Et l'on sentait qu'ils avaient encore peur. « Allons-nous-en, vite, vite. Quelle idée de s'attarder en un tel endroit, et précisément cette nuit. »« Qu'est-ce que c'était ?» demandèrent encore les autres, la voix de chacun trahissant l'émotion qui lui était propre. Les réponses furent assez différentes et surtout me semblèrent fort indécises, comme si tous les hommes avaient d'abord voulu dire la même chose, mais que la même peur les eût empêchés d'aller jusqu'au bout de leurs pensées. « C'était, oui, » bredouilla l'un d'eux qui n'était pas remis du choc. « Un loup, mais pas tout à fait un loup, » dit un autre, frissonnant d'horreur. « Il ne sert à rien de tirer sur lui si l'on n'a pas une balle bénite, » fit remarquer un troisième qui parlait avec plus de calme. « Bien nous a pris de sortir cette nuit, » s'exclama un quatrième. « Vraiment, nous aurons bien gagné nos 1000 marks. »« Il y avait du sang sur les éclats de marbre, » dit un autre, « et ce n'est pas la foudre qui a pu l'y mettre. » « Et lui, n'est-il pas en danger ? Regardez sa gorge. Voyez, mes amis, le loup s'est couché sur lui et lui a tenu le sang chaud. » L'officier, après s'être penché vers moi, déclara « Rien de grave, la peau n'est même pas entamée. Que signifie donc tout ceci ? Car nous ne l'aurions jamais trouvé sans les cris du loup. »« Mais cette bête, où est-elle passée ? » demanda le soldat qui me soutenait la tête et qui, de tous, paraissait être celui qui avait le mieux gardé son sang-froid. « Elle est retournée chez elle. » répondit son camarade. Son visage était livide, et il tremblait de peur en regardant autour de lui. « N'y a-t-il pas assez de tombes ici où elle puisse se réfugier ? Allons, mes amis, vite, quittons cet endroit maudit. » Le soldat me fit asseoir, cependant que l'officier donnait un ordre. Plusieurs hommes vinrent me prendre et me placèrent sur un cheval. L'officier lui-même sauta en selle derrière moi, passa ses bras autour de ma taille, et à nouveau donna un ordre, celui du départ. Laissant derrière nous les cyprès, nous partîmes au galop dans un alignement tout militaire. Comme je n'avais pas encore retrouvé l'usage de la parole, il me fut impossible de rien raconter de mon invraisemblable aventure. Et sans doute tombai-je endormi, car la seule chose dont je me souvienne à partir de ce moment, c'est de m'être retrouvé debout, soutenu de chaque côté par un soldat. Il faisait jour, et vers le nord se reflétait sur la neige un long rayon de soleil, semblable à un sentier de sang. L'officier recommandait à ses hommes de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Il dirait seulement qu'ils avaient trouvé un Anglais que gardait un grand chien. « Un grand chien ? Mais ce n'était pas un chien !» s'écria le soldat qui, tout le temps, avait montré une telle épouvante. « Quand je vois un loup, je sais sans doute le reconnaître d'un chien !» Le jeune officier reprit avec calme. « J'ai dit un chien. »« Un chien !» répéta l'autre d'un air moqueur. De toute évidence, le soleil levant lui rendait du courage. Et, me montrant du doigt, il ajouta « Regardez sa gorge. Vous me direz que c'est un chien qui a fait ça ?» Instinctivement, je portai la main à ma gorge et aussitôt je criai de douleur. Tous m'entourèrent. Certains, restés en selle, se penchaient pour mieux voir. Et, de nouveau, s'éleva la voix calme du jeune officier. « Un chien, ai-je dit. Et, si nous racontions autre chose, on se moquerait de nous. » « Un soldat me reprit en selle avec lui et nous poursuivîmes notre route jusque dans les faubourgs de Munich. Là, nous rencontrâmes une charrette dans laquelle on me fit monter et qui me ramena à l'hôtel des Quatre Saisons. Le jeune officier m'accompagnait, un de ses hommes gardant son cheval tandis que les autres regagnaient la caserne. Herr Delbrück mit une telle hâte à venir nous accueillir que nous comprîmes tout de suite qu'il nous avait attendus avec impatience. Me prenant les deux mains, il ne les lâcha pas avant que je ne fusse entré dans le corridor. L'officier me salua et il allait se retirer quand je le priai de ne rien faire. J'insistai au contraire pour qu'il montât dans ma chambre avec nous. Je lui fis servir un verre de vin et lui dis combien je lui étais reconnaissant, ainsi qu'à ces hommes si courageux, de m'avoir sauvé la vie. Il me répondit simplement qu'il en était lui-même trop heureux, que c'était Herr Delbrück qui, le premier, avait pris les mesures nécessaires et que ses recherches, en définitive, n'avaient pas été désagréables du tout. En entendant cette déclaration ambiguë, le patron de l'hôtel sourit cependant que l'officier nous priait de lui permettre de nous quitter. L'heure le rappelait à la caserne. « Mais, Herr Delbrück, demandai-je alors, comment se fait-il que ces soldats soient venus à ma recherche? Et pourquoi ?» Il haussa les épaules, comme s'il attachait peu d'importance à sa propre démarche, et me répondit « Le commandant du régiment dans lequel j'ai servi m'a permis de faire appel à des volontaires. Mais comment saviez-vous que je m'étais égaré ? Le cocher est revenu ici avec ce qui restait de sa voiture. Elle avait été presque complètement démolie quand les chevaux s'étaient emballés. Pourtant, ce n'est certes pas à cause de cela seulement que vous avez envoyé des soldats à ma recherche. Oh non, regardez. Avant même que le cocher ne soit revenu, j'avais reçu ce télégramme du boyard dont vous allez être l'hôte. » Et il tira de sa poche un télégramme qu'il me tendit. Je lus. Bistritz. Veillez attentivement sur celui qui sera mon hôte. Sa sûreté est pour moi très précieuse. S'il lui arrivait quelque chose de fâcheux, ou s'il disparaissait, faites tout ce que vous pouvez pour le retrouver et lui sauver la vie. C'est un Anglais, donc il aime l'aventure. La neige, la nuit et les loups peuvent être pour lui autant de dangers. Ne perdez pas un instant si vous avez quelque inquiétude à son sujet. Ma fortune me permettra de récompenser votre zèle. Dracula. Je tenais encore cette dépêche en main quand j'eus l'impression que la chambre tournait autour de moi. Et si le patron de l'hôtel ne m'avait pas soutenu, je crois que je serais tombée. Tout cela était si étrange, si mystérieux, si incroyable, que j'avais peu à peu le sentiment d'être le jouet et l'enjeu de puissances contraires, et cette seule et vague idée, en quelque sorte, me paralysait. Certes, je me trouvais sous une protection mystérieuse. Presque à la minute opportune, un message venu d'un pays lointain m'avait préservé du danger de m'endormir sous la neige et m'avait tiré de la gueule du loup. Dracula, chapitre 1. Journal de Jonathan Harker, sténographié. Bistritz, 3 mai. Quitté Munich à 8 heures du soir, le 1er mai. Arrivé à Vienne, de bonne heure, le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46, mais le train avait une heure de retard. À en juger d'après ce que j'en ai pu apercevoir du wagon, et d'après les quelques rues où je me suis promené, une fois débarqué, Budapest est une très belle ville. Mais je craignais de trop m'éloigner de la gare. Malgré ce retard, nous devions repartir comme prévu. J'eus l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental. Après avoir franchi les magnifiques ponts du Danube, ces modèles d'architecture occidentale, le Danube ici est particulièrement large et profond, on pénètre immédiatement dans une région où prévalent les coutumes turques. Ayant quitté Budapest sans trop de retard, nous arrivâmes le soir à Klosenburg. Je m'y arrêtai pour passer la nuit à l'hôtel royal. On me servit au dîner, ou plutôt au souper, un poulet au poivre rouge, délicieux. Mais cela vous donne une soif ! J'en ai demandé la recette à l'intention de Mina. Le garçon m'a appris que cela s'appelait du paprika endl, que c'était un plat national et donc que j'en trouverais partout dans les Carpates. Ma légère connaissance de l'allemand me fut fort utile en cette occasion. Sans cela, vraiment, j'ignore comment je m'en serais tiré. À Londres, quelques moments de loisir m'avaient permis d'aller au British Museum et à la bibliothèque, j'avais consulté des cartes et des livres traitant de la Transylvanie. Il me paraissait intéressant de connaître certaines choses du pays puisque j'aurais affaire à un gentilhomme de là-bas. Je m'en rendis compte. La région dont il parlait dans ses lettres était située à l'est du pays, à la frontière des trois États, Transylvanie, Moldavie, Bucovine, dans les Carpates. Une des parties de l'Europe les moins connues et les plus sauvages. Mais aucun livre, aucune carte ne put me renseigner sur l'endroit exact où se trouvait le château du comte Dracula, car il n'existe aucune carte détaillée de ce pays. Mes recherches m'apprirent toutefois que Bistritz, où, me disait le comte Dracula, je devrais prendre la diligence, était une vieille petite ville très connue. Je noterai ici mes principales impressions. Cela me rafraîchira la mémoire quand je parlerai de mes voyages à Mina. Quatre races se sont implantées en Transylvanie. Au sud, les Saxons, auxquels se sont mêlés des Valaques, qui eux-mêmes descendent des Daces. À l'ouest, des Magyars. À l'est et au nord, enfin, les Zecklers. C'est parmi ceux-ci que je dois séjourner. Ils prêtent descendre d'Attila et des Huns. Peut-être est-ce vrai, car lorsque les Magyars conquirent le pays au XIe siècle, ils y trouvèrent les Huns déjà établis. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpates et ne manquent pas de faire bouillonner l'imagination populaire. S'il en est ainsi, mon séjour pourrait être des plus intéressants. Je ne manquerai pas d'interroger le comte au sujet de ses nombreuses superstitions. Je dormis mal. Non que mon lit ne fût pas confortable, mais je fis toutes sortes de rêves étranges. Un chien ne cessa, durant toute la nuit, de hurler sous ma fenêtre. Est-ce la cause de mon insomnie, ou fût-ce le paprika? Car j'eus beau boire toute l'eau de ma carafe, la soif me desséchait toujours la gorge. Vers le matin, enfin, je me suis sans doute profondément endormi, car je me suis réveillé en entendant frapper à ma porte, et il me sembla qu'on devait frapper depuis longtemps. Au petit déjeuner, j'eus à nouveau du paprika, ainsi qu'une espèce de porridge fait de farine de maïs qu'on appelle mamaliga et d'aubergines farcies, plat excellent qui porte le nom de impletata. J'en ai noté également la recette pour Mina. Je déjeunais en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8 heures. Ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8 heures, mais lorsque, après une véritable course, j'arrivais à la gare à 7h30, j'attendis plus d'une heure dans le compartiment où je m'étais installé avant que le train ne débarrât. Il me semble que plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que cela doit être en Chine ? Nous roulâmes toute la journée à travers un fort beau pays, d'aspect varié. Tantôt nous apercevions soit des petites villes, soit des châteaux juchés au sommet de collines escarpées, comme on en voit représenté dans les anciens missels. Tantôt nous longions des cours d'eau plus ou moins importants, mais qui tous, à en juger par les larges parapets de pierre qui les bordent, sont sans doute sujets à de fortes crues. À chaque gare où nous nous arrêtions, les quais fourmillaient de gens vêtus de costumes de toutes sortes. Les uns ressemblaient tout simplement à des paysans, comme on en voit chez nous ou en France, ou en Allemagne. Ils portaient des vestes courtes sur des pantalons de coupe assez grossière et des chapeaux ronds. Mais d'autres groupes étaient des plus pittoresques. Les femmes paraissaient jolies, pour autant que vous ne les voyiez pas de trop près, mais la plupart étaient si fortes qu'elles n'avaient pour ainsi dire pas de taille. Toutes portaient de volumineuses manches blanches et de larges ceintures garnies de bandes de tissu d'autres couleurs et qui flottaient tout autour d'elles, au-dessus de leurs jupes. Les Slovaques étaient bien les plus étranges de tous, avec leurs grands chapeaux de cow-boy, leurs pantalons bouffants d'un blanc sale, leurs chemises de lin blanc et leurs lourdes ceintures de cuir, hautes de près d'un pied et cloutées de cuivre. Ils étaient chaussés de hautes bottes dans lesquelles ils rentraient le bas de leurs pantalons. Leurs longs cheveux noirs et leurs épaisses moustaches noires ajoutaient encore à leur aspect pittoresque, mais sans leur donner, en vérité, un air très agréable. Si j'avais voyagé en diligence, je les aurais pris aisément pour des brigands, bien que, m'a-t-on dit, ils ne fassent jamais de mal à personne. Au contraire, ils sont plutôt pusillanimes. Il faisait déjà nuit lorsque nous arrivâmes à Bistritz, qui, je l'ai dit, est une vieille ville au passé intéressant. Située presque à la frontière, en effet, en quittant Bistritz, il suffit de franchir le col de Borgo pour arriver en Bucovine. Elle a connu des périodes orageuses, dont elle porte encore les marques. Il y a 50 ans, de grands incendies la ravagèrent coup sur coup. Au début du XVIIe siècle, elle avait soutenu un siège de 3 semaines, perdu 13 000 de ses habitants, sans parler de ceux qui tombèrent, victimes de la famine et de la maladie. Le comte Dracula m'avait indiqué l'hôtel de la Couronne d'Or. Je fus ravi de voir que c'était une très vieille maison, car naturellement, je souhaitais connaître, autant que possible, les coutumes du pays. De toute évidence, on m'attendait. Lorsque j'arrivais devant la porte, je me trouvais en face d'une femme d'un certain âge, au visage plaisant, habillée comme les paysannes de l'endroit, d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur, qui enveloppait et moulait le corps. Elle s'inclina et me demanda aussitôt « Vous êtes le monsieur anglais ?»« Oui, » répondis-je, « Jonathan Harker. » Elle sourit et dit quelque chose à un homme en manche de chemise qui l'avait suivi. Il disparut, mais revint aussitôt et me tendit une lettre. Voici ce que je lus. « Mon ami, soyez le bienvenu dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. La diligence part pour la Bucovine demain après-midi à 3 heures. Votre place est retenue. Ma voiture vous attendra au col de Borgo pour vous amener jusqu'ici. J'espère que depuis Londres, votre voyage s'est bien passé et que vous vous féliciterez de votre séjour dans mon beau pays. Très amicalement, Dracula. » 4 mai. Le propriétaire de l'hôtel avait, lui aussi, reçu une lettre du comte, lui demandant de me réserver la meilleure place de la diligence. Mais lorsque je voulus lui poser certaines questions, il se montra réticent et prétendit ne pas bien entendre l'allemand que je parlais. Un mensonge, assurément, puisque jusque-là, il l'avait parfaitement compris, à en juger en tout cas par la conversation que nous avions eue lors de mon arrivée chez lui. Lui et sa femme échangèrent des regards inquiets, puis il me répondit en bafouillant que l'argent pour la diligence avait été envoyé dans une lettre et qu'il ne savait rien de plus. Quand je lui demandai s'il connaissait le comte Dracula et s'il pouvait me donner certains renseignements au sujet du château, Tous les deux se signèrent, déclarèrent qu'ils en ignoraient tout et me firent comprendre qu'ils n'en diraient pas davantage. Comme l'heure du départ approchait, je n'eus pas le temps d'interroger d'autres personnes. Mais tout cela me parut fort mystérieux et peu encourageant. Au moment où j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé. « Devez-vous vraiment y aller ? Oh, mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller ?» Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait et le mêler à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter une affaire importante, elle me demanda encore « Savez-vous quel jour nous sommes ?» Je répondis que nous étions le 4 mai. « Oui, » fit-elle en hochant la tête, « le 4 mai, bien sûr, mais quel jour est-ce » Comme je lui dis que je ne saisissais pas sa question, elle reprit. « C'est la veille de la Saint-Georges. Ignorez-vous que cette nuit, aux 12 coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre ? Ignorez-vous où vous allez et au-devant de quoi vous allez ?» Elle paraissait si épouvantée que je tentais, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château. Rien n'empêcherait d'y aller. J'essayais de la relever et lui dis sur un ton fort grave que je la remerciais, mais que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis, prenant le crucifix suspendu à son cou, elle me le tendit. Je ne savais que faire, car, élevée dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie, et pourtant j'aurais fait preuve, me semblait-il, d'impolitesse en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée qui ne me voulait que du bien, et qui vivait, à cause de moi, de moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement « Pour l'amour de votre mère ». Puis elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence, qui, naturellement, est en retard. Et la petite croix pend encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame? Ou les effrayantes superstitions du pays? Ou cette croix elle-même? Je ne sais. Mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina avant que je ne la revoie moi-même, elle y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. Thank you.